Par actualité. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 novembre, c'est Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter les paractualités et les titres aujourd'hui. Le nombre de psychologues et d'orthophonistes diminue par rapport aux besoins. Les autistes sont-ils violents ? Suzanne Nadeau-Wiesel est décédée lundi matin. « Ma mission sur Terre est terminée », a-t-elle déclaré avant de recevoir l'aide médicale à mourir qu'elle souhaitait. Également à l'émission, Medical Alert Fondation Canada et la Société Alzheimer du Canada lancent le prix du Bon Samaritain et on nous présente un film qui fait la lumière sur l'autisme, Dernière nouvelle du cosmos. En entrevue aujourd'hui, Émilie Bouchard, rédactrice pour Sport.com, les 15 ans de sport.com.qc.ca, c'est le sujet, et une entrevue avec Geneviève Guilbeault, directrice adjointe de la gang à Rambrou, qui s'occupe du volet art, visuel et maître d'œuvre de l'exposition « Les chats de Clémence ». Oui, oui, Clémence Desrochers. Le nombre de psychologues et d'orthophonistes diminue par rapport aux besoins. En 2005-2006, 745 psychologues travaillaient pour le réseau scolaire public, selon les chiffres fournis par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, alors qu'ils étaient 686 en 2015. D'autre part, leur clientèle principale, soit les élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, est passée de 132 555 à 152 109 individus. De plus, le nombre d'enfants aux prises avec une maladie mentale est passé de 1467 à 3718. Le nombre d'orthophonistes dans le réseau a augmenté, mais pas autant que le nombre d'enfants avec une déficience langagière, les principaux bénéficiaires de leurs services. Ainsi, les enfants diagnostiqués, nous dit Roxane Léouzon dans le journal Métro, avec un trouble du langage, étaient 9516 en 2014-2015, une augmentation de 81,7% par rapport à 2005-2006. On ne peut pas répondre à tous les besoins. On doit se concentrer sur les cas sévères. Ceux qui ont des besoins légers ou modérés, mais qui auraient besoin d'orthophonie, tombent dans un trou. D'autres ont des interventions aux deux semaines, alors qu'ils en auraient besoin chaque semaine, considère Marilène Dionne, présidente de l'Association québécoise des orthophonistes. Madame Dionne souligne qu'il n'y a plus de pénurie d'orthophonistes et qu'il serait possible d'en embaucher davantage si les commissions scolaires en avaient les moyens. Les autistes sont-ils violents? Mardi dernier, des policiers de Cornwall ont procédé à l'arrestation d'un jeune autiste, adolescent de 14 ans. Vraisemblablement désorganisé, il aurait posé des gestes agressifs envers le personnel de l'école et il aurait émis des menaces. Le problème, c'est que l'adolescent aurait également résisté fermement à son arrestation et qu'il fait maintenant face à 8 chefs d'accusation. Cette situation, nous dit Mélanie Ouimet, qui est la fondatrice du mouvement de la neurodiversité, l'autisme et les autres formes d'intelligence autiste et qui milite en faveur de la reconnaissance positive de l'autisme, elle nous dit donc que cette situation est loin d'être un cas unique et elle démontre clairement d'une part le manque de connaissances en matière d'autisme et d'autre part le manque de formation et d'outils des intervenants scolaires et des forces policières. Un autiste qui se sent menacé et en danger se défend. Même si ce danger est d'apparence futile pour les autres, un autiste en effondrement émotionnel a généralement besoin de calme et de douceur. Une formation en autisme et en gestion de crise devrait être obligatoire, d'après Mme Ouimet, pour le personnel scolaire, pour les forces policières, ainsi que pour les parents d'enfants autistes. Une formation non pas basée sur la punition, l'ignorance, la privation ou le retrait, mais bien sur le respect, la compréhension mutuelle, sur la communication non violente, sur la gestion des émotions et sur l'empathie. Et puis, il est pertinent de rappeler, dit Mme Ouimet, que l'autisme n'est pas une maladie psychiatrique ni un trouble émotionnel ou comportemental. Il s'agit bien d'une différence neurologique. « 15 ans, ça se fête et c'est ce qu'on s'apprête ou ce qu'on est en train de faire à Sportcom, dont le site internet est sportcom.qc.ca. Et je vais tout de suite me tourner, si j'ose dire, parce que ça, ce sera par téléphone, vers Émilie Bouchard. Émilie Bouchard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice pour Sportcom.
Tout à fait, depuis maintenant 10 ans. Et comme vous venez de le dire, Sportcom vient d'avoir 15 ans le mois dernier.
Dites-moi, pourriez-vous nous rappeler quelle est la vocation de Sportcom pour ceux qui ne le sauraient pas?
Certainement. Bien, Sportcom, c'est pas compliqué. C'est une agence spécialisée dans le sport olympique, paralympique, pour
D'accord.
donner une visibilité supplémentaire aux athlètes québécois qui pratiquent ces sports sur la scène internationale. Alors, on est à l'affût de toutes les compétitions qui se passent dans le monde où il y a des Québécois qui sont en action. On essaie de vous livrer ensuite leurs bonnes nouvelles dans la plupart des cas.
OK. Alors, expliquez-moi, parce que vous êtes rédactrice, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres mondes qui gravitent dans Sportcom. C'est une grosse équipe, ça?
Une petite équipe, je vous dirais. On est 4 rédacteurs, puis ensuite, on ajoute à ça un rédacteur en chef qui est Mathieu Laberge et notre directrice générale. Donc, une petite équipe, mais très passionnée et très dévouée à la publication de textes, d'entrevues vidéo, d'entrevues d'extraits sonores pour qu'on parle le plus possible des athlètes québécois qui sont en action dans les sports olympiques, paralympiques sur la scène internationale.
Alors, il faut donc bien rappeler que si vous êtes rédactrice, c'est parce que c'est publié quelque part et c'est donc une web publication, c'est bien ça?
Tout à fait. Les gens aussi peuvent s'abonner directement sur notre site web pour ensuite avoir par courriel selon leurs intérêts, selon leur sport ou leur région, s'ils voudraient avoir de l'information précise sur les sujets.
D'accord. Alors, justement, parlons-en de ces sujets-là. Vous écrivez sur quoi, sur qui?
Principalement sur les athlètes québécois qui sont en action un peu partout dans le monde.
D'accord.
C'est sûr qu'on a eu une année assez riche cette année puisque c'est
avec
les Jeux olympiques
oui.
et les Jeux paralympiques à Rio. Donc, ça a beaucoup gravité autour de ces athlètes.
Mm-hmm.
Là, la saison d'hiver commence. Alors, c'est sûr qu'on va parler de hockey sur luge, de parabiathlon, de paraski de fond, de patinage artistique, patinage de vitesse courte piste. Donc, vraiment un mélange de sports olympiques et paralympiques.
Oui, parce qu'on a beaucoup de champions aussi en paralympique. Hein? On a des gens qui font très bien à l'international.
Tout à fait, des excellents, des très beaux modèles à suivre. Bon, on a vu un peu ce qui s'est passé aux Jeux paralympiques de Rio, notamment avec Benoît Huot, Aurélie Vivard en paranatation. En hockey sur luge, on a Dominique Larocque, un athlète québécois qui est gardien de but de l'équipe nationale, qu'on va certainement suivre cette année dans ces tournois. Alors oui, le paysage québécois a vraiment beaucoup d'athlètes qui sont en action dans le mouvement paralympique et qui font très bien dans plusieurs sports, autant en basket, en fauteuil roulant, en rugby, en fauteuil roulant. Bon, je parlais de parabiathlon, paraski de fond, on a aussi des beaux modèles.
Bon, et puis vous venez d'avoir 15 ans, ça se fête, alors comment vous allez souligner ça?
Bien, le 23 octobre dernier, en fait, c'était la date qui signalait notre 15e anniversaire officiellement. Alors, on a sorti un grand dossier spécial qui a un peu relaté les 15 ans d'histoire de Sportcom, où on a demandé à certains athlètes de nous partager leurs meilleurs souvenirs qu'ils ont eus avec nous. Entre autres, justement pour le volet paralympique, on avait entre autres Benoît Huot, qui vous pouvez le retrouver sur notre site web dans nos dossiers spéciaux hors série, ou qui relate un peu c'est son histoire avec Sportcom, plus principalement dans le domaine paralympique. On a vraiment vu qu'avec l'arrivée de Sportcom, entre autres, il y a eu un grand virage au niveau de l'information. Il y a eu beaucoup plus de place attribuée au sport paralympique dans les médias québécois lors de l'apparition de Sportcom il y a 15 ans. Et il y en a encore plus maintenant, 15 ans plus tard.
Oui, je vous sens très, très optimiste et très heureuse de cela. Moi, j'ai toujours l'impression, par contre, qu'on n'en parle pas assez. Alors, d'après vous, quand même, il y a eu beaucoup d'efforts de mis sur la couverture des sports paralympiques et simplement, comment on dit, parasportifs?
Oui, tout à fait. Moi, je vous dirais que c'est sûr qu'il prend, on prend en parler encore plus, qu'il y a tellement des athlètes qui sont tellement des beaux modèles pour la société en général et dans leur sport, on prend en parler plus, mais il y a quand même eu beaucoup d'efforts consacrés à la couverture de ces athlètes-là. Si on recule il y a 15 ans en arrière ou au Jeux de Sydney en 2000, c'était plus difficile peut-être avec le décalage horaire, mais on n'entendait presque pas parler. Mm-hmm. À cette année, en 2016, à Rio, il y a eu vraiment un grand avantage, une plus grande fenêtre offerte pour les sports paralympiques. C'est sûr que ça évolue, tout évolue, mais je pense que les Jeux de Vancouver en 2010, qui ont été très médiatisés puisque c'est au Canada, ça a donné un bon impact aussi, autant pour le sport olympique que le sport paralympique. D'accueillir l'an dernier, en 2015, à Toronto, les Jeux panaméricains et parapanaméricains, ça a été un effort supplémentaire.
Est-ce qu'on pourrait en faire plus?
Bien certainement.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
je crois que c'est de continuer de partager ces histoires, continuer de donner, évidemment, de donner cette place. C'est sûr que le sport olympique même se bat contre des sports plus professionnels, le hockey, le soccer, le football. Oui. Mais c'est sûr que c'est une bataille. Il faut se partager. Cette place médiatique-là, il y a des efforts de fait, mais juste en partageant les histoires, en s'informant davantage, en participant aux des événements, il y a quand même des grands événements au Québec qui se passent, des championnats canadiens, on parle souvent du défi sportif, qui est vraiment un modèle très intéressant et aussi très réputé au niveau international. Alors, c'est en partageant ces histoires, tout simplement, en allant de l'avant, puis en montrant que ces athlètes sont égaux aux autres athlètes.
Exactement. Puis, écoutez, Émilie Bouchard, comptez sur Canal M pour continuer à parler d'eux. Et je sais qu'on pourra compter aussi encore longtemps, du moins je l'espère, sur sportcom.qc.ca, le site sur lequel vous êtes donc rédactrice. Et bravo.
Bien, merci. Puis, on continuera ensemble à porter les bonnes nouvelles que nos athlètes du monde paralympique nous servent.
Nous serons les médailles d'or de la compétition, de la communication. Voilà.
Et voilà.
Allez, bonne journée à vous.
Merci
au revoir,
beaucoup.
Émilie.
Au revoir.
Par actualité régionale, une seule nouvelle, une seule actualité qui concerne la disparition de Suzanne Nadeau-Wiesel. C'est peut-être un nom qui ne vous dit rien. C'est Sonia Bolduc qui raconte dans La Tribune. Suzanne Nadeau-Wiesel est décédée lundi matin, atteinte de la sclérose latérale amyotrophique, la SLA. La cherbrookoise de 61 ans a reçu au CIUS de l'Estrichus l'aide médicale à mourir qu'elle souhaitait recevoir, afin d'éviter des souffrances inutiles pour elle et pour sa famille. Infirmière à la retraite, ayant longuement œuvré en soins palliatifs, Suzanne Nadeau-Wiesel connaissait bien l'issue fatale de sa maladie diagnostiquée en août 2014. Suzanne a ainsi décidé, bien librement et tout aussi généreusement, de partager le dernier droit de son bout de chemin. Elle avait perdu l'usage de la parole depuis un moment déjà, alors, comme nous l'avions fait pour des entrevues ou des échanges précédents, nous dit la journaliste Sonia Bolduc, je lui ai fait parvenir mes questions par écrit. Le dialogue est simple, il aborde la vie, la mort, l'angoisse du départ et l'avenir sans elle. Je me tais, dit Madame Bolduc, je la salue. Voici ce qu'écrit Madame Suzanne Nadeau-Wiesel. Tout au long de l'été, mon corps a subi les ravages de la maladie. La SLA est définitivement une maladie qui ne pardonne pas. Une question continuait à me hanter. Comment est-ce que je ferais pour me rendre au temps des fêtes? Je m'étais fixé ce but pour ma famille. Il fallait que je vive le plus longtemps possible pour eux, pour qu'ils fassent leur deuil pleinement, pour qu'ils apprennent de mon expérience. J'ai fait part de cette préoccupation à Jean, mon conjoint. Il m'a regardé d'un air surpris la première fois et n'a rien dit. 2 mois plus tard, lorsque je lui répète à nouveau que je ne savais pas comment je tiendrais le coup pour eux, il s'est effondré. Et là, c'est moi qui étais surprise. Entrelacés, nous avons mis à jour nos états d'âme. Jean continuait à me soutenir dans mes décisions. De mon côté, prenait place une urgence de mettre fin à mes souffrances. Je vivotais. Je n'avais plus l'énergie pour de nombreux projets. Je me sentais de plus en plus prisonnière de mon corps. Je suis devenue témoin de la vie plutôt que participante, un rôle que j'ai eu bien du mal à accueillir. La vie que je trouvais jadis si belle devenait de plus en plus laide. Je n'étais pas dépressive, j'étais réaliste. Je pesais les pour et les contre. Je vivais dans la vérité qui était la mienne. Personne ne peut comprendre ce qu'une autre personne vit. C'est pourquoi, après mûre réflexion et discussion avec ma famille, j'ai pris l'ultime décision de demander l'aide médicale à mourir. Il y a de quoi de surréel à connaître d'avance l'heure et la date de sa mort. Foqué même. Mais quelle délivrance, quel soulagement. Certes, malgré les discussions, le choc a envahi ma famille les premières 24 heures de l'annonce. Rien ne prépare assez les proches pour une telle décision. Après ma mort, la terre tournera encore. À mes proches, je leur souhaite de profiter de la vie au maximum. J'espère qu'ils iront au bout de leurs rêves. Chacun trouvera son essence et fera cette petite différence qui améliorera ce monde dans lequel nous vivons. Aimer et être aimé pour qui on est sans discrimination, voilà le secret d'un monde meilleur. Je suis en paix avec mes démarches. J'aurais bien aimé poursuivre mon combat pour améliorer les soins de fin de vie. Que j'en ai donc long à dire sur le sujet. Dommage, il y a tant à faire au niveau de nos soins palliatifs, de mourir dans la dignité, du support offert aux aidants naturels et des soins à domicile. Tant qu'on ne sera pas assuré de tous, sans exception, avoir droit à une mort dans la dignité où, et comme on le désire, il y aura du travail à faire. J'ose espérer avoir fait réfléchir les gens. J'aimerais même penser que j'ai peut-être fait une petite différence dans la vie de certains. Je passe le flambeau à vous tous qui devrez un jour à votre tour faire face à la mort. Je remercie ceux qui m'ont suivi au travers mon blog, car vous m'avez donné des ailes. Surtout, j'espère avoir renseigné les gens sur la maladie de la SLA. Plus elle sera connue, plus nous parviendrons à trouver un traitement. Je garde espoir que les citoyens et les médias de l'Estrie participeront à la marche de la SLA chaque année. Ma mission sur Terre est terminée. Elle est directrice adjointe de la gang à Rambroux. Elle s'occupe du volet des arts visuels et elle est maître d'œuvre de l'exposition « Les chats de Clémence ». Geneviève Guilbeault, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ce matin?
Ça va très bien, merci.
Bon, alors, « Les chats de Clémence », entre guillemets, entre parenthèses, évidemment, des rochers, c'est à la Maison de la culture du plateau Mont-Royal, c'est présenté depuis le 24 novembre et c'est présenté jusqu'au 5 février. C'est
oui.
Bien ça?
Oui, c'est ça.
Alors, comment est né ce projet d'exposition sur les chats de Clémence? Pourquoi les chats de Clémence? Pourquoi les chats et pourquoi ceux à Clémence?
D'abord, la gang à Rambroux présente chaque année un événement culturel où il y a un spectacle et une exposition. Puis dans le spectacle, ben, il y a des musiciens, des comédiens. Mm-hmm. Et cette année, le thème, c'était un hommage à Clémence Desrochers.
Bon.
C'est une idée originale de Suzanne Beaulieu, notre directrice
oui.
générale, et de Hélène-Élise Blais, qui est notre professeure de musique. Et parmi l'équipe qui travaille ici, les gens qui ont des sciences intellectuelles, tout le monde a participé au spectacle, à cet événement-là, soit en faisant des décors, des costumes, soit en étant acteurs, musiciens, etc. Et ceux qui sont en arts visuels ont préparé une exposition en arts visuels. Puis les chats de Clémence, à ce moment-là, c'est que Clémence Desrochers, elle-même a déjà fait une exposition dont le thème était les chats. Ça s'appelait « Chats frisant le ridicule » il y a plusieurs années. Et on s'est inspiré de son travail à elle.
Mm-hmm.
Donc,
okay.
Pardon.
Non, je vous en prie.
On s'est inspiré aussi d'un personnage qu'elle a incarné dans Grigio et Délicat, qui est Mademoiselle Sainte-Bénite.
Mm-hmm.
Fait qu'il y a les chats, mais quelques petites œuvres aussi qui ont été inspirées de d'autres travaux de Clémence.
Elle a dû venir voir évidemment l'expo.
Pas au mois de juin, parce que ça a été présenté au mois de juin,
okay.
l'exposition. Puis elle était en croisière à ce moment-là.
Ah, d'accord.
Elle n'a pas pu se présenter à l'exposition.
D'accord. Mais là, cet automne ou cet hiver, j'imagine qu'elle devrait venir faire un tour.
On espère bien. Elle a été invitée. Elle nous a dit qu'elle essaierait de passer.
Ben oui. On va essayer de pousser ça un petit peu. dites-moi, combien d'artistes membres de la gang à Rambroux ont participé à cette exposition-là, Geneviève Guilbeault?
Au départ, on avait 32 œuvres en juin qui ont été exposées.
Ah oui?
Dont certaines personnes avaient, quelques personnes avaient deux œuvres et il y avait aussi des œuvres collectives comme Mademoiselle Sainte-Bénite,
mm-hmm.
qui est une œuvre en trois dimensions, grandeur plus que nature.
OK.
Et il y en a cinq qui ont été vendues, donc maintenant à la Maison de la Culture, il reste 27 œuvres exposées.
Oh, parce qu'ils les ont déjà pris. Ben oui, mais il faudrait qu'ils attendent au mois de février avant de les prendre. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va avoir à voir?
Maintenant, oui, mais en juin, on n'avait pas encore. On ne savait pas tous les détails. Alors, il y en a qui ont été vendus au mois de juin, mais là, on a gardé le reste. Là. C'est bon, sur les murs jusqu'au 5 février.
Alors, il y a, j'imagine, on travaille différentes matières, différentes couleurs. Est-ce qu'on travaillait sur des photos? Est-ce que Clémence vous a fourni des photos de ses chats? D'abord, j'ignorais qu'elle avait des chats, mais bon. Hein?
Je ne sais pas si elle a des chats à la maison, mais je sais qu'elle a fait une exposition à ce sujet-là.
Oui, oui. Oui. Donc, elle en dessine beaucoup. Hein?
Oui, c'est ça, elle aime les chats.
Elle aime les chats, c'est ça. Puis, et écoutez, j'en ai un chat là, de chez vous, là. Mm-hmm. Un petit chat rouge et blanc avec une magnifique moustache orangée, rousse, mm-hmm. sur fond. Ben, de toute façon, vous devez connaître ça parce que c'est comme un petit peu un carton de présentation,
oui.
des chats de Clémence. Qui a fait ça? Ah, c'est Jeanne-Élie L'Espérance.
Oui, c'est ça.
Alors, il faut préciser que tous les artistes, parce que ce sont des artistes, hein, même si ce sont des artistes en herbe pour quelques-uns, mais ils vivent tous avec une déficience intellectuelle, hein, plus ou moins légère, plus ou moins lourde.
C'est des gens qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme,
d'accord.
les deux.
D'accord. D'accord. Alors, les contextes ont été quoi élaborés dans le cadre de cours, de formation, de...
Oui, dans le cadre d'ateliers d'art visuel qui était piloté par Carole Saint-Laurent, une de
d'accord.
nos enseignantes. Et ont travaillé longtemps, pendant toute l'année, ils ont travaillé là-dessus. Ils ont travaillé en plusieurs étapes. Ils ont commencé par regarder les chats de Clémence. Ensuite, Clémence travaillait beaucoup à l'aquarelle. Puis là, ils ont essayé un peu l'aquarelle, mais c'était pour eux, pour la plupart d'entre eux, en tout cas, une nouvelle technique. Et Carole, notre prof, a décidé de miser plus sur l'expression de la créativité plutôt que sur la technique, parce que la technique faisait comme un frein à leur inspiration, en parlant de la technique de l'aquarelle. Donc, elle les a laissés choisir le médium qui les mettait le plus à l'aise. Puis ils ont pris le temps vraiment de parler de chats, de regarder des chats, de voir comment c'était fait un chat, de s'imaginer où est-ce que c'était un chat, parce que Clémence fait ça. Elle les met dans la vie, dans le quotidien. On voit les chats dans la simplicité du quotidien. Fait qu'ils ont fait la même chose.
OK.
Ils ont fait la même chose. Ils ont parlé d'histoire de chats. Ils ont observé des chats. Puis ils ont finalement personnalisé chacun leur chat. Puis ils ont travaillé beaucoup... finalement, ce sujet-là les a amenés à faire quelque chose d'assez intime par rapport à leur vie, par rapport à leur quotidien à eux. Puis ils ont beaucoup, beaucoup aimé le sujet.
Bon, ben écoutez, en tout cas, je suis convaincue que c'est très, très sympathique d'aller voir cette exposition-là qui, je vous le rappelle, est présentée jusqu'au 5 février à la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal. Je pense que les horaires, c'est plutôt en après-midi, hein?
Il faut vérifier l'horaire de la Maison de la Culture, parce que des fois aussi, dans la soirée, s'il y a des activités spéciales, des spectacles, à ce moment-là, l'horaire de la Maison de la Culture s'étire un peu.
D'accord.
Il faut vérifier, on peut aller voir sur leur site.
D'accord. Alors donc, au plein cœur, dans le cœur du plateau Mont-Royal, ne manquez pas les chats de Clémence présentés par la gang Arambrou, dont nous adorons parler ici à l'émission, et d'ailleurs, on aime tellement ça qu'on vous retrouvera très prochainement dans les semaines à venir.
Avec plaisir.
D'accord, Geneviève. Geneviève Guilbeault, directrice adjointe de la gang Arambrou. Merci beaucoup et bonne journée, Geneviève.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité des aînés, Medic Alert, Fondation Canada et la Société Alzheimer du Canada lancent le prix du Bon Samaritain afin d'encourager le public à prêter assistance aux personnes atteintes d'une maladie cognitive. Le prix a été conçu pour rendre hommage aux citoyens qui ont aidé une personne qui s'est perdue à revenir à la maison en toute sécurité. La titulaire du prix de cette année est une femme de Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle avait remarqué dans son quartier un homme d'une soixantaine d'années qui déambulait sans but, l'air égaré. Elle a immédiatement appelé le numéro d'urgence inscrit sur le bracelet Medic Alert Sécu-Retour qu'il portait. L'homme de 60 ans, qui est atteint d'une maladie cognitive à apparition précoce, a pu être rapidement réuni avec sa famille grâce à la liste de contacts d'urgence du personnel de Medic Alert. Les intervenants d'urgence et les policiers ne sont pas les seules personnes à jouer un rôle clé quand vient le moment d'aider une personne atteinte d'une maladie cognitive, le public canadien a également un rôle à jouer. En fait, 26% des appels que nous avons reçus jusqu'à maintenant cette année proviennent de bons samaritains, déclare M. Robert Ridge, président et chef de la direction de Medic Alert Canada. Fondation Canada. Dernière nouvelle du Cosmos de Julie Bertuccelli est sortie en salle le mercredi 9 novembre dernier en Europe. En filmant Hélène, une jeune femme autiste de 30 ans, auteure de textes poétiques absolument magnifiques, la réalisatrice offre un regard nouveau sur le handicap. Ce que nous savons de l'autisme, nous l'avons généralement appris de personnes souffrant d'Asperger, une variante un peu plus légère de la maladie. Les écrivains Joseph Chovanec, Temple Grandin, donc Temple Grandin ou Daniel Tammet en sont les représentants les plus médiatiques, ce dernier ayant connu un large succès, populaire avec notamment « Je suis né un jour bleu ». Ils témoignent très bien sur ce handicap, mais n'en sont que la partie la plus visible de l'iceberg. Que ressentent et pensent les autres autistes, ces 90% qui représentent la frange la plus lourdement atteinte de ce handicap? Eh bien, avec le film Dernière nouvelle du Cosmos de Julie Bertuccelli, qui est sorti le 9 novembre dernier dans les salles, on a enfin une première et une petite idée, grâce au témoignage direct notamment d'Hélène Nicolas. Hélène Nicolas a 30 ans. Elle a encore l'allure d'une adolescente qui ne parle pas, qui n'a jamais appris à lire ni à écrire. Elle est très malhabile dans ses gestes, elle a la démarche gauche, elle bave même parfois un peu. Elle est en proie à une contrariété. Dès qu'elle est en proie à une contrariété ou à une forte émotion, Hélène s'agite, elle se mord les poings. Bref, pour parler crûment, la jeune femme expose tous les stigmates associés à ce que l'on nomme, un peu trop rapidement, débilité. Et pourtant, au-delà des apparences, Hélène Nicolas est l'auteur de textes poétiques et forts dans lesquels elle témoigne de son handicap et de son rapport au monde. Pour ce faire, elle garde toujours avec elle un abécédaire garni de lettres plastifiées qu'elle agence sur une feuille de papier pour former les mots et des mots et des phrases avec lesquels elle peut communiquer avec les autres. Et alors, il est fascinant de voir se manifester une intelligence intérieure si vivace et si drôle. Alors, elle a même réagi, cette jeune femme, et elle a dit à la réalisatrice du film dont il est question et dont elle est le personnage central, elle lui a dit « À travers ton film, Julie, j'apparais comme une personne hors circuit qui, avec sa boîte de lettres, compose un langage d'une autre appartenance et les mondes se rejoignent. » Du 25 novembre, ça s'est donc commencé, mais jusqu'au 6 décembre prochain, il y a 12 jours d'action qui ont lieu en Abitibi-Ouest afin de sensibiliser la population au problème de la violence faite aux femmes. Le Centre de femmes L'Érige va profiter de ces 12 jours d'action pour dénoncer le manque de ressources en hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales en Abitibi-Ouest. Ils publieront également des images chocs sur leur page Facebook tout au long des 12 jours. Et puis depuis le 25 novembre, quelques 55 000 bénévoles de 100 communautés d'un océan à l'autre enfilent déjà le dossard rouge de l'opération Nez Rouge. Alors, qu'on se le dise. Voilà ce qui met un terme au Par Actualité du jour en ce 30 novembre. Merci à toute mon équipe et merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain matin, 11h30.